Micro-Rebelle Reportage, c'est le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà. Micro-Rebelle Reportage, à écouter sur microrebelle.fr en podcast ou en téléchargement.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Vous pouvez nous envoyer vos actualités, vos suggestions, vos idées, toujours par courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau reportage sur microrebelle.fr. Nous sommes aujourd'hui avec nos amis de pièces et main-d'œuvre qui viennent de réaliser deux causeries, c'est leur terminologie, deux causeries, une à Mont-Saint-Barreul et une à Liévin, autour des préoccupations qui sont les leurs. Et donc, on a souhaité à Micro-Rebelle aller un petit peu plus loin pour que nos auditrices et nos auditeurs prennent connaissance justement de ce qu'est pièce et main-d'œuvre et surtout de ce que sont les finalités qui les guident, les enjeux pour eux importants aujourd'hui. Alors je vais les laisser se présenter. Bonjour pièce,
bonjour.
Bonjour main-d'œuvre. Alors je ne sais pas qui commence peut-être pour resituer ce qu'est pièce et main-d'œuvre, son histoire, c'est...
Ok, bon, je vais m'y coller. Pièce et main-d'œuvre, d'abord, ce n'est pas un collectif. C'est pas une association, c'est des individus politiques, des animaux politiques. Et tu l'as dit, je crois qu'on est de Grenoble. Et en tant que Grenoblois, mais ce serait sans doute la même chose pour les Lillois, pour les Toulousains, pour les Bordelais, pour les Parisiens, on était malheureux de ce qu'était devenu notre ville. Peut-être que chaque génération connaît le même malheur, mais bon, nous, on a aimé cette ville quand on était jeunes. Et ce qu'elle est devenue sous l'impact des nouvelles technologies, de l'industrialisation, de l'industrialisation des hautes technologies, nous a rendus malheureux. La vie quotidienne nous a rendus malheureux à Grenoble. La vie politique en général, c'est-à-dire la vie publique en général, nous a rendus malheureux. Et plutôt que de prendre notre parti de notre malheur et simplement le subir ou de gémir et de déplorer à longueur de temps entre copains, ou de subir en quelque sorte, on a décidé d'enquêter sur notre ville et de la redécouvrir comme si on était des étrangers. Puisqu'on était devenus des exilés dans notre propre ville, on a essayé de dire, bon, en tant qu'exilés, qu'est-ce que c'est que cette ville et qu'est-ce qui nous déplaît dedans ? Alors, bon, ça c'est la théorie. Dans la pratique, on était tombé sur un article du Dauphiné Libéré, du Daubé localement, à propos d'un laboratoire militaire où travaillaient des personnels civils syndiqués qui faisaient grève parce qu'ils étaient mécontents de la cantine, si j'ai bonne mémoire. Et à cette occasion, on a découvert un qui avait un laboratoire militaire en pleine ville de Grenoble, dédié au NBC, nucléaire, bactériologique, chimique. Deux qui avaient des personnels civils dedans, trois que ces personnels civils étaient syndiqués et quatre qu'ils avaient des gros soucis de cantine. Et ça ne troublait absolument personne à Grenoble, ville progressiste, écologiste, et ainsi de suite. Enfin, c'est dans l'ordre des choses. D'ailleurs, c'est des personnels qui vont au travail en vélo.
On est en quelle année, là ?
Au tournant des années 2000.
Au tournant des années
début
2000.
Début 2000.
Et c'était dans le Dauphiné Libéré, d'ailleurs. Il y avait un article. Donc, on a fait un texte. On a la plume facile, faut le dire. On a la plume facile. On a fait un tract pour en parler et pour s'étonner, et même pour s'indigner, quoi. Le tract a eu du succès, et en fait, on avait mis le doigt dans l'engrenage, et depuis, on n'a pas cessé de porter sur notre ville un regard qu'on espérait vierge. Enfin, je crois que c'est le taureau qui dit « Puisse toute chose habituelle nous inquiéter ». Et donc, on s'est habitué à voir notre ville comme si on était des étrangers, puisque de toute façon, notre ville nous rendait étrangers. Et on n'a pas cessé de faire des enquêtes, c'est-à-dire des reportages sur notre propre ville.
C'est comme ça qu'on est tombé, Grenoble étant la mère de toutes les technopoles en France, c'est-à-dire un des laboratoires avancés des nouvelles technologies, et ce depuis plus d'un siècle. On avait en fait sous les yeux l'état actuel des recherches et de l'industrialisation de ces recherches. Donc on est tombé comme ça sur les tout débuts des nanotechnologies. Donc ça remonte aux années 2002-2003. On a commencé à faire nos premières enquêtes là-dessus. En 2006, à Grenoble a été inauguré le premier pôle européen de micro et nanotechnologie, Minatech. Donc là, on a organisé avec des copains, avec d'autres, la première manifestation mondiale contre les nanotechnologies. Et ensuite, on a suivi, effectivement, en creusant et en approfondissant les enquêtes et les recherches qu'on pouvait faire, on est tombé sur ce qu'on appelle aujourd'hui les NBIC, les technologies convergentes, c'est-à-dire nanotechnologie, biotechnologie, informatique, sciences cognitives, les sciences du cerveau, qui sont le front actuel de l'innovation, les dernières avancées, et qui en fait préparent les outils qui aujourd'hui donnent lieu au développement du projet transhumaniste. Voilà, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé presque par un heureux hasard, disons, les premiers un peu à voir émerger ça sous nos yeux, hein, tout simplement, c'était à Grenoble, il suffisait d'être un peu curieux, un peu intéressé pour voir émerger ça, en fait, au stade initial, au stade émergent. Voilà.
En fait, on pourrait consacrer tout le temps cet entretien à la question de l'enquête. J'imagine qu'on va parler d'autre chose. Mais l'enquête est pour nous, a une importance primordiale pour nous, au sens où c'est le moyen de s'auto-intellectualiser, de s'auto-éduquer en permanence. On fait partie des gens qui pensons qu'on n'est pas intelligent, mais qu'on le devient. Et on le devient, comment on trouve ? Eh bien, on trouve en cherchant. Bon. Et donc, il ne faut jamais cesser de chercher et d'enquêter. C'est une obligation à vie. Et d'une part, et c'est ce qui nous permet de nous maintenir intellectuellement actifs et même intellectuellement conquérants, d'apprendre des choses. Donc, c'est indispensable, à mon sens, pour tout être humain. Et deuxièmement, c'est encore plus indispensable, ou c'est aussi indispensable pour les gens qui prétendent intervenir sur la place publique, dans les affaires publiques, parce que, bien sûr, tu peux dire des choses à l'aveuglette, tu peux parler de ton chapeau, comme disent les Anglais, mais c'est mieux d'avoir un peu enquêté pour savoir de quoi tu parles. Et plus tu enquêtes, et plus tu es à même de répondre aux gens en place qui prétendent savoir. Il y a une maxime du manuel de contre-insurrection de l'armée américaine qui dit que tout officier plombé dans un bled d'Irak ou d'Afghanistan ou je sais pas quoi doit le plus rapidement possible devenir le spécialiste mondial de son district. C'est-à-dire il doit connaître, pour pouvoir en vue de mener la contre-insurrection, il doit connaître les familles, les intérêts, la géographie, l'histoire, l'économie, la géologie si tu veux. Plus tu en connais, mieux ça vaut. Plus tu connais le passé, plus tu as des vues sur le futur. Et ben, c'est la même chose pour nous. Si on veut faire de la politique, il faut que nous soyons les spécialistes mondiaux de l'endroit où nous vivons. Et ça ne s'arrête jamais parce que sans cesse, ça change et ça bouge. Donc ton enquête n'est jamais finie. Et c'est une perpétuelle enquête en cours.
Alors justement, les débats auxquels on a participé ce week-end, hein, c'est un premier débat sur le transhumanisme, un deuxième débat sur ce qu'on peut appeler d'une manière globale le monde machine, hein, la ville machine, la smart city. Qu'est-ce qui structure un petit peu tout ça? Quels sont les enjeux que pièces et main d'œuvre voient derrière tout ça? Et comment un petit peu, est-ce qu'il y a d'autres exemples? Peut-être, hein, il y a eu deux débats, mais il y aurait peut-être pu en avoir plusieurs. Mais finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça?
Ce qu'il y a derrière tout ça, c'est un développement accéléré des technologies qui répond en amont à une quête unique, je crois, qui est l'éternelle quête de la techno-industrie, qui est celle de l'efficacité. L'efficacité est au cœur de... Enfin, la recherche de l'efficacité et motorise réellement les recherches et développements menés par les laboratoires, qu'ils soient privés, publics, de l'université ou de l'industrie. Quand on regarde les discours tenus par les promoteurs de ces technologies, il s'agit toujours de gagner en efficacité, d'optimiser ce qu'on entreprend, de rationaliser. Il y a à l'œuvre un processus presque fou quand on regarde sur le long terme et sur ses conséquences qu'il produit sur nos vies, un processus quasiment fou de rationalisation. L'idée de raison est intéressante, mais l'idée de raison poussée à fond, au maximum, finalement, devient folle. C'est ce à quoi nous assistons. Et quand on parle de transhumanisme ou quand on parle de Smart City, nous, on avait résumé ça d'une formule il y a déjà quelques années, en parlant d'un processus d'incarcération de l'homme-machine dans le monde-machine. Et les deux aspects de la question, la fabrication d'un monde-machine, c'est-à-dire de plus en plus piloté automatiquement par les machines, par des dispositifs automatisés, que chacun peut constater dans sa vie, puisque maintenant on a tout le temps affaire à des machines quand on a des démarches à faire ou quand on vit dans la ville. Et en même temps, pour s'adapter à ce monde-machine, la mise en place d'outils pour transformer l'homme lui-même en machine, mais c'est pas juste une image, c'est-à-dire que le projet du transhumanisme, c'est réellement d'hybrider l'homme avec des prothèses, des implants machiniques efficaces, toujours plus efficaces pour le rendre plus performant. Nous, on avait résumé ça donc comme l'incarcération de l'homme-machine dans le monde-machine, et c'est ce qui est à l'œuvre dans tous ces développements de technologie. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Nous, on a, à force de réfléchir, d'enquêter et de se creuser la tête, au fond, il nous est apparu. Parce que quelquefois, les gens nous disent, c'est le capitalisme, ou c'est la finance, ou c'est
le système industriel.
Le système, voilà. On s'est dit qu'en amont de ça, si on voulait remonter finalement à une source quasiment anthropologique, il y avait l'idée de volonté de puissance. Il y a chez certains humains, et on insiste là-dessus, nous ne sommes pas tous également responsables de ce qui advient, parce qu'il y en a qui ont du pouvoir et d'autres qui ne l'ont pas. Et chez ceux qui sont les maîtres des machines, peut s'exprimer cette volonté de puissance de façon débridée, de plus en plus, et de plus en plus, de façon de plus en plus rapide et de plus en plus forte. Par exemple, les patrons des grandes entreprises de la Silicon Valley, Google, Apple, Facebook, Amazon et compagnie, investissent des milliards dans des technologies dont ils espèrent retirer une puissance phénoménale, ça veut dire qui accroît leur capacité personnelle individuelle, c'est-à-dire les rendre plus performants d'un point de vue physique, intellectuel et même moral, c'est ça l'idée de l'homme augmenté, et même, espèrent-ils, peut-être atteindre l'immortalité, ou en tout cas la mortalité, ce qui signifie le fait d'une longévité accrue, certains parlent de vivre 1000 ans, enfin bon, là, on est un petit peu dans les fantasmes.
En fait, il y a un élément, il y a un niveau qui est, je dirais, atemporel et transhistorique, qui est métaphysique, qui est la volonté de puissance. Bon, volonté de puissance, c'est-à-dire volonté de pouvoir, d'omniscience, de jouissance, de prestige, une volonté d'autodivinisation, devenir Dieu, devenir un homme Dieu. Bon. Ça, c'est un point. Et puis, de façon transitoire, il y a les formes que ça revêt historiquement. Quelles sont les... En quoi s'incarne la volonté de puissance historiquement? Bon, je suppose qu'à l'époque préhistorique, ça s'exprimait par des gros muscles et une grosse massue. Et puis, il y a les champs, la terre et les vaches. Ça, c'est un moment... Les vaches, c'est le cheptel. Bon, cheptel, c'est le même mot que capital. Caput capitis. Le cheptel, c'est l'ancêtre du capital. De la même façon que pécou, le troupeau en indo-européen, en français moderne, ça donne à la fois la pécore, c'est-à-dire le bétail, et la pécune, l'argent. Bon. Donc, la volonté de puissance s'incarne par la terre, le bétail, puis les guerriers. L'époque féodale, enfin la puissance militaire, Et puis à la fois au Moyen-Âge, concomitamment, à la fois les débuts du machinisme au sens moderne et du capital financier au sens moderne, qui devient hégémonique à partir du XIXe siècle. Mais je ne crois pas que les capitalistes soient possédés au niveau le plus fondamental par l'envie d'amasser. Et l'envie d'amasser ou d'avoir du retour sur capital, c'est pas pour entasser des signes monétaires ou des zéros derrière une virgule. C'est parce que derrière ça, c'est de la puissance. De la puissance, la possibilité de faire. Et c'est parfaitement clair avec les jeunes entrepreneurs de la Silicon Valley, qui sont tous des gamins qui sortent du MIT, etc., qui ont des blue jeans troués et des t-shirts. Leur problème, ce n'est pas d'entasser des zéros. Leur problème, c'est de fabriquer des entreprises, de fabriquer des systèmes, de fabriquer des machines. Et le stade actuel de l'accaparement et de la puissance, ce sont les machines. Alors ça mérite quand même qu'on s'y arrête un instant. Le mot machine remonte à une étymologie grecque, mécané. Bon, mécanique, machine, c'est le même mot. Hein. Et les mécanés en grec, ça signifie aussi les moyens. Donc, quand on accumule des machines chez les Grecs, on accumule des moyens. Quand on accumule des moyens, ça passe par des machines. Et on y retourne maintenant. On retrouve maintenant le vieux sens de l'étymon grec. L'accaparement des machines, la faculté de pouvoir machiner, la faculté de machination, la faculté de s'auto-machiner et donc de s'auto-diviniser, c'est un accaparement, de la puissance et des moyens de la puissance. Bon. Et donc, c'est à ça que nous avons affaire. Et le capitalisme, bon, bah, c'est une formation sociale et économique qui, elle, pour le coup, n'est pas transhistorique, qui est parfaitement historique, qui existe depuis le Moyen-Âge, qui devient hégémonique au XIXe siècle, mais qui peut perdre son hégémonie. L'accaparement du capital peut disparaître au profit de l'accaparement des machines et de la grande machinerie, et les capitalistes redisparaître comme ils sont apparus au service d'ingénieurs entrepreneurs... Et être substitués par des ingénieurs entrepreneurs. Mais c'était ça aussi les débuts du capitalisme. Hein. Tous ces grands Écossais, tous ces grands Anglais qui fondaient des entreprises, c'était des ingénieurs qui récoltaient du capital auprès de leur famille et de la banque.
Alors effectivement... si j'écoute bien un peu ce fil rouge hein, qui parcourt un petit peu la réflexion de pièce et main-d'œuvre, bon, j'imagine bien que, encore que les débats qu'on a vus, les débats auxquels j'ai assisté, il y avait vraiment des gens qui étaient motivés, intéressés et qui accrochaient tout à fait à cette réflexion. Mais j'imagine bien, ceci étant par ailleurs, que c'est un discours, une réflexion qui reste... minoritaire et à contre-front d'un certain nombre de préoccupations dans les médias, dans les organisations politiques, syndicales, associatives, etc. Typiquement, sans doute, est-ce que la réflexion, ben finalement, vous êtes contre le progrès, vous devez l'entendre plus qu'à votre tour.
Oh, au début, on s'était fait traiter d'obscurantiste. Bon, maintenant, on est traité de réactionnaire. Oui, on est censé être contre le progrès. Alors, cette formule, elle est lapidaire et elle n'est pas complète, surtout. Parce que le mot progrès, d'abord, n'a pas toujours eu une connotation positive et favorable comme il l'a aujourd'hui. Puisque le mot progrès, ça signifie au départ simplement une avancée. Mais on parlait aussi bien des progrès de la maladie, des progrès d'un incendie, des progrès de la famine. Donc tout ça n'a rien de positif. Bon. Et puis, à partir du 19e siècle, et avec l'avènement justement de la techno-industrie et de cette révolution industrielle à ce moment-là, le progrès devient synonyme en fait de progrès technologique, de progrès scientifique. Et là, il acquiert toujours... une dimension positive et favorable. Un progrès, c'est toujours vu maintenant de façon positive. Mmh. Bon, mais encore une fois, les progrès de la maladie, c'est pas une bonne idée.
Être de gauche, c'est être progressiste.
Et de plus, être de gauche, c'est être progressiste. Et donc, on a, depuis le 19e siècle, assimilé, confondu le progrès scientifique et technologique avec le progrès social, le progrès humain. Or, pour qui prend un peu de recul et retrace un peu la trajectoire des sociétés dites progressistes, ou en tout cas qui ont mis ça en œuvre depuis le 19e siècle, on s'aperçoit, et même maintenant les académies les plus officielles le disent, qu'après 150 ans de progrès ininterrompu, la situation n'est pas brillante. Puisqu'on a un chaos climatique qui menace, 6e extinction des espèces, des maladies émergentes inquiétantes et un chaos social qui menace également, dû à cet effondrement du milieu. Bon. Donc, à un moment donné, il faut regarder les termes et se dire, eh bien, en fait, il n'y a pas de corrélation. Et c'était une mystification de faire croire qu'il y avait corrélation entre progrès technologique et progrès social et humain. Et on en arrive maintenant à la conclusion qu'il y a même antinomie, c'est-à-dire que désormais, toute avancée technologique, donc tout progrès technologique, conspire contre le progrès social et humain, parce qu'il va avec une dépossession de notre autonomie d'organisation, ou de savoir, ou de pensée, il va avec une aliénation croissante, vis-à-vis des maîtres de ces technologies-là, hein, je répète, nous ne sommes pas tous égaux face à ça, et puis il entraîne beaucoup de souffrance, on parle beaucoup de la souffrance au travail, des gens qui ne peuvent plus exercer leur métier de façon humaine, parce qu'ils sont soumis à la fois aux règles de la technologie et du management, qui vont dans le même sens. Donc on voit bien que là, il y a un mythe à faire tomber, et notamment à gauche, bien sûr.
Mmh. Ouais, c'est Marx qui, en 1853, disait que la vapeur est...
La vapeur conspire contre le statu quo.
Il y avait autre chose, la vapeur.
Et l'électricité.
Enfin, 53, il était précoce. Oui, Marx disait en 1853 que la vapeur et l'électricité conspiraient contre l'ordre établi.
Le statu quo.
Statu quo, oui. Mais la vapeur et l'électricité, ce n'est pas des forces impersonnelles. Enfin, ou plutôt, c'est des forces impersonnelles, mais derrière la vapeur électricité, il y a des maîtres de la vapeur électricité. Et le peuple était loin d'être progressiste. À telle enseigne qu'il y a eu de nombreuses révoltes populaires et ouvrières contre le progrès, contre les machines, des destructions de machines que Marx déplorait et dénonçait. Pour lui, c'était un signe d'immaturité de la classe ouvrière que de détruire les machines, de s'opposer aux tricoteuses mécaniques, aux textiles, enfin bon. Il y a un livre qui documente ça, ça s'appelle les Luddites. Enfin bon, il y a beaucoup de livres sur les ouvriers luddites en Angleterre, mais cela mis à part, il y a un livre qui s'appelle Les Luddites en France, un gros bouquin qui documente toutes sortes de résistances ouvrières à la mécanisation en France au XIXe siècle. Bon, il y a eu des exemples fameux chez nous, par exemple, à Lyon, enfin, avec Vaucanson. Enfin, bon, c'était... À Rouen aussi, des ouvriers imprimeurs. Enfin, bon, le peuple était loin d'être de gauche. La gauche, en fait, il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. La gauche, à l'origine, c'est un parti bourgeois. Bon. Et le peuple se situait... Enfin, la classe ouvrière se situait en dehors du champ politique. Moi, j'ai beaucoup lu sur les Canus récemment. Les Canus n'étaient pas... Il y avait des Canus révoltés qui étaient royalistes. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Bon, et donc, la classe ouvrière lyonnaise ne s'est située que petit à petit dans le champ politique. Elle campait sur son terrain social. Et il a fallu tout le 19e siècle, et surtout vers la fin du 19e siècle, avec les anarchistes, les blanquistes, etc., pour qu'elle se politise et qu'elle se politise à gauche. Mais, enfin, à gauche. Le ralliement à la gauche, c'est l'affaire Dreyfus. Hein. Bon. Mais avant, non.
Parce que ce qui faisait justement que, comme tu dis, la classe ouvrière n'était pas intrinsèquement pour le progrès. Hein. Il y avait les briseurs de machines. Qu'est-ce qui fait que la classe ouvrière était comme ça? C'était peut-être des traditions vernaculaires, des savoir-faire paysans. Qu'est-ce que c'était
Si on prend l'exemple des ouvriers luddites anglais, donc qui sont les plus célèbres, hein, d'où est venu ce
nom-là. Donc
les
briseurs de machines à tisser.
C'est les briseurs de machines à tisser et du milieu du textile, donc qui interviennent en gros pendant 3 années à peu près autour de 1810 dans 3 comtés du centre de l'Angleterre. c'était typiquement des ouvriers qui étaient plutôt des artisans, en vérité, des maîtres ouvriers. C'est-à-dire qu'ils travaillaient à domicile avant, ils avaient des machines pour les aider dans leur travail textile, mais ces machines, ils les construisaient eux-mêmes, ils les faisaient à leurs mains, hein, selon les besoins qu'ils avaient, ils savaient les entretenir, bon, ils en étaient maîtres de leurs machines. Et surtout, ils organisaient leur vie et leur travail à leur façon, dans la communauté familiale ou villageoise. Donc, en plus de ça, ils avaient des potagers, ils allaient à la pêche, à la chasse, il y avait les droits de pâture, il y avait une forme d'autonomie
dans la
vie.
Ils avaient leurs propres horaires.
Voilà, et ils s'organisaient comme ils voulaient. On dit souvent, quand ils décidaient de ne pas travailler le lundi, bah, ils disaient que c'était la Saint-Lundi. Hein. Bon, voilà. Donc, du moment que le travail était fait et qu'ils produisaient les pièces textiles pour leurs commanditaires à temps et de façon bien réalisée, bon, ils s'organisaient comme ils voulaient. Il y avait une autonomie et une solidarité au sein de la communauté, mettons, villageoise ou familiale. Ce que vient détruire la fabrique, quand elle s'impose donc avec des machines et la vapeur, c'est-à-dire l'industrialisation...
Et la discipline de fabrique.
C'est le fait que désormais, on ne travaille plus à la maison, mais on va à la fabrique, on respecte des horaires et des jours. Il y a une discipline de fabrique très dure. En plus, on embauche les enfants, les femmes, tout le monde est sommé d'aller travailler à l'usine avec des horaires très longs. Hein. Et là, les machines, c'est plus les ouvriers qui les maîtrisent et qui s'en servent à leur main, à leur façon, mais c'est eux qui deviennent les appendices des machines. Ils doivent se soumettre à la procédure parce que justement, l'industrialisation, c'est d'abord ça. C'est d'abord des procédures. J'en reviens à mon propos tout à l'heure, c'est pour rationaliser et être plus efficace. Pas question de faire chacun avec son petit truc, son savoir-faire, son tourne-main. Non, on fait tous les mêmes gestes rationalisés. Et donc, les ouvriers ludites se révoltent contre ça, non pas parce qu'ils pensent que les machines vont les priver de leur travail, comme on dit souvent, hein, il y a la crainte du chômage, c'est pas ça qui les motive. Ce qui les motive, c'est ça, c'est la perte d'autonomie, d'organisation dans leur propre vie quotidienne, la perte des savoir-faire qui sont incorporés dans la machine, qui leur échappent. Et enfin, une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'ils considèrent que ces machines des fabriques font un travail dégueulasse et que les pièces produites en série ne sont pas de bonne qualité. Or, c'est des gens qui considéraient que dans le produit qu'on fabrique soi-même, on met une part de soi, il y a une qualité. Et d'ailleurs, tout le monde le sait parce qu'on sait très bien comment est valorisé encore le fait main, le fait maison.
Le cousu main.
C'est toujours plus cher. Bon. Donc, c'est des gens qui étaient attachés principalement à des valeurs, on peut dire qu'elles étaient anciennes, éventuellement, mais qui avaient du contenu, qui avaient du sens. Voilà. Leur vie avait du sens et tout d'un coup, elles n'en avaient plus. C'est ça qui a motivé le fait que pendant 3 ans, ils ont brisé des machines au risque de leur propre vie, puisque le Parlement anglais a voté une loi qui punissait de pendaison les briseurs de machines. C'est-à-dire que le fonctionnement d'une machine avait plus de prix que la vie d'un homme, quoi.
Alors si on fait un petit bond en avant pour revenir un petit peu à notre époque, hein, bon, il y a eu aussi des briseurs de machines, hein, par exemple le groupe Clodo à Toulouse qui brisait les ordinateurs. Mais aujourd'hui, hein, en 2017, comment est-ce que vous positionnez cette question justement de l'autonomie, de la dépendance, de la dépossession, comment est-ce que vous l'appréhendez?
Bon, d'abord, il faut juste faire une petite parenthèse pour dire qu'il y a des héritiers des ludites et des briseurs de machines encore aujourd'hui, d'après nous, et ce sont les faucheurs d'OGM. Ils perpétuent cette tradition, en quelque sorte. Ce sont les seuls, à ma connaissance, enfin, il y a quelques bris de machines ça et là, mais enfin, c'est très marginal, alors que les faucheurs ont quand même une activité régulière, importante et maintenue, quoi. Voilà.
Bon, l'actualité des briseurs de machines.
Sur la dépossession, c'est ça si
on... Ou l'actualité aujourd'hui de la mise au travail au travers des machines, par les machines, par les logiciels.
Le fait que l'humain est évincé.
Quel tableau vous brossez aujourd'hui, justement?
Le tableau apparent, c'est celui de la victoire des machines. Les machines ont gagné. Beaucoup de gens, la plupart des gens, même quand ils n'aiment pas les machines, ont intériorisé un fatalisme qui leur fait dire qu'on n'arrête pas le progrès, ce qui au passage ne donne pas une idée très flatteuse du progrès. Ça paraît plus quelque chose qu'on subit que quelque chose qu'on applaudit. Ça n'a pas toujours été comme ça, hein. à Saillance dans la Drôme, cette commune qui s'est signalée récemment parce que c'est toute la commune qui est maire. Enfin, ils n'ont pas élu de maire, c'est toute la commune qui est maire. Donc tout le monde va faire un pèlerinage à Saillance pour voir comment ça marche. Bon, moi j'ai retrouvé un texte, une pétition des paysans de Saillance dans la Drôme qui réclament des fabriques parce qu'ils sont jaloux des ouvriers. Et ils veulent avoir un salaire. Ils veulent pas. Ils sont sûrs qu'avec un salaire, ils trouvent que les ouvriers ont une vie plus facile qu'eux. Bon. Je pense qu'ils ont dû en revenir, mais à l'heure actuelle, les machines ont si bien gagné que quand il y a un souci chez Foxconn, qui est le sous-traitant d'Apple en Chine, Foxconn, c'est une entreprise taïwanaise qui travaille en Chine, qui fabrique des semi-conducteurs.
Nombreux cas de suicide, nombreux cas de...
Ouais, c'est ça.
C'est chinois, donc il y a beaucoup de monde, 1 million de personnes.
Il y a un petit livre à lire, hein, c'est « La machine est ton seigneur et maître ».
Voilà. Oui. Bon, nous, on avait suivi avant ça Foxconn comme cas emblématique. Ça faisait quelques années que ça nous intéressait. À partir du moment où des ouvriers ou des ouvrières de Foxconn n'ont pu supporter la vie de Foxconn, et effectivement, se sont suicidés. En se jetant, par exemple, par les fenêtres, bon, on a commencé par mettre des filets pour qu'ils ne meurent pas en se jetant par les fenêtres. Et puis rapidement, on les a licenciés en masse et on a remplacé les ouvriers par des machines. Le patron de Foxconn, Terry Gou, disant « Moi, je n'ai pas envie de gérer des animaux. » Donc, il a vidé les animaux et il a mis des machines à la place. Et puis, bon, le cas se représentant généralement pour la classe ouvrière chinoise qui commence à avoir des salaires qui ressemblent à des salaires polonais ou roumains. Bon. Donc, on délocalise, la Chine délocalise. Elle délocalise au Vietnam, elle délocalise au Bangladesh, et même elle délocalise en Éthiopie. L'Éthiopie est en train de s'industrialiser, l'Afrique est en train de s'industrialiser. Donc, à l'heure actuelle, la classe ouvrière occidentale, nord-américaine, ouest-européenne, même européenne, n'est plus compétitive. Les employés occidentaux sont de moins en moins compétitifs. Tous les cols blancs sont remplacés eux-mêmes par tous les guichetiers des banques, des PTT, des gars, etc. sont remplacés par des machines. Et la compétition se joue au moins 10 ans entre le prolétariat du Bangladesh, par exemple, dans le textile, et les machines. Qu'est-ce qui va revenir le moins cher ? Une femme bengali ou une machine ? Bon, c'est là que ça se joue. Évidemment, s'il y a des accidents dans les usines de sous-traitance, comme ça s'est passé pour cette entreprise il y a quelques années où des femmes avaient brûlé vives et que les gens s'indignent en Occident, on va dire, bon, ben oui, il ne faut pas que les femmes brûlent. Donc, on va les remplacer par des machines. Il restera une vaste humanité, puisqu'on continue sur notre lancée démographique, une vaste humanité en expansion. Contrairement à ce que les démographes nous avaient annoncé, il n'y a pas de phase plateau. On va vers 11 milliards d'habitants, voire un petit peu plus. Ces habitants, on ne sait pas quoi en faire. Et pourtant, on continue de les chasser. La vaste majorité sont des paysans. On continue de les chasser des campagnes où ils avaient une espèce d'autosubsistance pour les ramener vers les faubourgs des métropoles, ou bien eux-mêmes, grâce aux moyens de communication modernes, eux aussi ont des smartphones, eux aussi ont des écrans, eux aussi veulent aller à la métropole. Alors, soit ils vont vers la métropole la plus proche, soit celle d'après, soit en Occident. Bon. Et tous ces gens ne servent à rien. C'est l'humanité superflue. Ils ne servent à rien au sens où ils ne sont plus capables d'autosubsistance, puisqu'ils sont partis de leur terre ou que leurs terres ont été dévastées par le progrès. Donc, ils viennent s'amasser en métropole pour travailler dans nos usines et dans nos services. Mais dans nos usines et dans nos services, on n'en a plus besoin, puisque les machines travaillent mieux, plus vite, pour moins cher, etc. Bon, même dans les services. Donc, ils sont inutiles. Ils sont inutiles. Et malgré tout, ils sont là. Comme ils sont là et qu'ils sont nombreux, que nous sommes nombreux, que les superflus sont nombreux, il y a un problème de consommation parce que des gens qui ne sont pas payés n'achètent pas. Comme ils n'achètent pas, les marchés s'effondrent. Et donc, il y a un embouteillage de la marchandise et des services. Donc, superflu en tant que main-d'œuvre, superflu en tant que marché parce qu'insolvable. D'où l'idée qui a émergé, mais qui est une vieille idée. Hein. Ça date de Jefferson, et puis ça a été redéterré dans les années 20, et puis maintenant ça fait un tour en force. De dire, bon, bah, on va concéder pour tous ces superflus un revenu universel garanti, dont l'embryon était le RMI. Moi-même, je touche le RSA, ce qui me permet de vivre sans travailler. Enfin, sans travail salarié. Je travaille beaucoup, mais je ne suis pas salarié. Et on va sans doute généraliser ça, sans doute l'augmenter un petit peu. C'est un retour à quelque chose de très ancien aussi, qu'on appelait à Rome la sportule. La sportule, c'était cette allocation d'huile d'olive, de vin, de blé, qu'on concédait à la plèbe. Il y avait ça, et puis il y avait le smartphone. Le smartphone, ça s'appelait les jeux du cirque. Bon. Donc le smartphone plus le revenu garanti, ou les écrans plus le revenu garanti, le cirque plus le pain, ça peut permettre d'entretenir une plèbe, une multitude. Nous, on dit l'acratie, les gens qui n'ont aucun pouvoir. L'acratie, par opposition à la technocratie qui, elle, a les moyens, ou la mécanocratie qui a les moyens et les machines. Bon. Cette acratie, elle se développe numériquement. Elle se concentre dans les métropoles, mais en même temps qu'elle se concentre dans les métropoles, elle est atomisée et sérialisée. Elle n'a pas de lieu de rassemblement, puisqu'elle n'est plus rassemblée dans l'atelier, elle n'est plus rassemblée dans l'usine, elle n'est plus rassemblée au marché, elle n'est plus rassemblée dans les champs, elle n'est plus rassemblée dans le village. Elle n'est rassemblée que sur les réseaux sociaux, qui sont en fait des réseaux pour les zéros sociaux, bon. Où les gens communiquent avec des gens à 10 000 km, mais pas avec leurs voisins. Quel est l'avenir de ces gens-là ? Eh ben, ça dépend du bon plaisir et du bon vouloir des technocrates, des maîtres des machines, des pilotes des machines, parce qu'on peut supposer qu'à l'échelle d'une ou deux générations, ils vont se lasser de partager avec toute cette masse inutile les ressources résiduelles, l'eau, l'air, l'espace, les fluides énergétiques, la nourriture. Il a à craindre qu'il arrive malheur à ces gens. On va pas s'en occuper. Il y a déjà des zones entières de la planète qui sont laissées à l'abandon, qui retournent au terrain vague. Hein, la Somalie, le Congo, plein de pays, des parties entières du Mexique, des parties... Bon. Donc ces gens-là, ils pourraient leur arriver malheur, mais comme c'est arrivé à tout un tas d'espèces et de peuples à travers l'histoire. Le seul facteur positif, c'est qu'ils sont de plus en plus souvent stériles. C'est-à-dire que la pollution de l'environnement, les nuisances à travers les perturbateurs endocriniens, la chimie, les rejets de la chimie, etc., font qu'il y a de plus en plus de stérilité. Alors peut-être qu'à long terme, ça, c'est une issue de secours. Mais tout le monde ne sera pas... Bon, enfin, j'abrège là, mais...
Alors peut-être, justement, pour... avancer un petit peu sur différents sujets dans cette émission. En général, comment c'est reçu, ça, dans les différentes causeries ? Quelles questions ça pose aux participantes et aux participants ? Et notamment, la question du « qu'est-ce qu'on peut faire ?» quoi. Et comment vous l'abordez, cette question ?
Bon, déjà, le fait de venir assister à un débat avec pièces et main-d'œuvre... C'est au minimum qu'on est un peu sensible à ces questions, ou en tout cas curieux, et donc on peut pas dire qu'il y ait dans les participants à ces causeries des personnes qui tombent de leur chaise réellement. Enfin, elles ont déjà un peu de culture ou de sensibilité sur ces questions-là. Mais ceci dit, y a plusieurs réactions possibles. Évidemment, il y a ceux qui se sentent accablés par ce constat, même s'ils le partagent. Hein, même si c'est difficile de ne pas le partager, il suffit d'ouvrir le journal tous les jours. Bon. Il y a ceux qui réfléchissent qui choisissent, disons, des chemins de traverse, c'est-à-dire qui choisissent de se débrancher, en quelque sorte, de ce système-là, et qui expérimentent des modes de vie qui retournent à la terre, qui essayent de recréer justement un petit peu d'autonomie et de solidarité locale, les circuits courts, enfin toutes ces choses-là. Et d'ailleurs, c'est un mouvement qui tend à s'accroître, puisque ça devient... y compris parfois même récupérées par les politiques. Donc ça, c'est un signe que ça a pris une certaine ampleur dans la population. Mais évidemment, nous tous, autant que nous sommes, nous restons minoritaires dans la population globale. Chacun voit que... Enfin, il suffit de prendre les transports en commun, de passer une journée en ville, par exemple, en ayant un peu le regard curieux, pour s'apercevoir qu'on est, perdu dans cette foule comme ça, anonyme, où chacun a le nez sur son smartphone et ne semble pas trouver ça désagréable.
Sa tablette,
voilà. Il y a une forme d'accoutumance, peut-être de désir pour ça chez certains, qui pour nous est un obstacle, évidemment, dans la prise de conscience. Bon. Alors après, sur la question du que faire qui revient inévitablement et puis sur laquelle on a été amené à réfléchir, on est parti de l'idée que ce qui est attaqué en ce moment beaucoup par ces écrans, par cette sollicitation permanente hein, d'informations qui n'en sont pas, qui sont plutôt des stimuli, des images, des sons, une vidéo par-ci, un message par-là, une notification, enfin, en permanence, les applis qui sonnent dans tous les sens. Il n'y a plus de possibilité de se réfugier dans son fort intérieur pour avoir déjà un dialogue avec soi-même et ensuite commencer à penser, à élaborer et à réfléchir. Donc, c'est les cerveaux qui sont attaqués, très clairement. Et d'ailleurs, commence à se mesurer dans les écoles, auprès des petits. On voit bien qu'il y a des facultés qui sont attaquées. Donc pour nous, la priorité, c'est sauver les cerveaux et préserver notamment, et je dirais même faire renaître, parce que c'est pas seulement préserver, la faculté de penser, et surtout la faculté de penser par soi-même, et pas simplement de retweeter le truc qu'on vient de recevoir. Donc penser par soi-même, ça veut dire reprendre... toutes les acquisitions de base qui ont été largement attaquées et détruites aussi par un système scolaire qui va mal, la capacité de lire, d'écrire, de maîtriser sa langue, de comprendre à quoi sert la grammaire, à articuler des idées, à élaborer des raisonnements, à comprendre l'implicite d'un texte, puisqu'on sait maintenant que les jeunes, dans les études, là, on ne perçoivent plus l'implicite d'un texte. Ça va loin.
Le second degré. Hein,
c'est-à-dire l'humour, l'ironie, le second degré. Nous, ça nous arrive d'utiliser l'humour, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On s'aperçoit qu'il y a des gens qui ne le perçoivent même pas. Donc ça, c'est urgent. Il y a des choses à préserver, là. Hein, c'est du patrimoine. Et donc, pour ça, il faut d'abord que chacun... en prennent conscience pour soi et ses proches. C'est pour ça qu'on met l'accent sur l'enquête qui est un moyen de s'auto-intellectualiser, de s'auto-former, d'une part. Et d'autre part, il nous est venu cette idée qu'au fond, on avait urgemment besoin de recréer des écoles sauvages, comme il s'en crée déjà beaucoup, d'ailleurs, hors-circuit, hein, avec repenser ce qu'on enseigne, comment on l'enseigne, et réfléchir à l'idée de la transmission. Ce que casse la prétendue horizontalité d'Internet, on est tous producteurs et récepteurs d'informations, en vérité, c'est la transmission.
Non, mais c'est pas seulement Internet, c'est toute cette pédagogie post-68ard dont moi j'ai connu un petit bout. J'ai fait partie de la génération qui s'est attaquée au pouvoir du professeur, du maître. Enfin, moi, j'étais anxieux d'apprendre. Je voulais apprendre et je voulais des enseignants. Je voulais qu'on m'enseigne des choses. Je voulais qu'on me transmette des choses. Et quand je contestais le professeur, c'est parce qu'il restait le professeur autoritaire et rigide, mais en plus, il perdait sa légitimité parce qu'il ne m'apprenait pas grand-chose. Bon, enfin, à part ça, j'étais un lecteur vorace. Hein. Donc, j'étais un cas difficile dans la classe. Mais ce que ne dit pas ma compagne, c'est que peut-être tu l'as dit, je sais pas, c'est que pour nous, la première des ZAD, la première des zones à défendre maintenant, c'est le cerveau, c'est le fort intérieur. Et ça, c'est la mère de toutes les ZAD. Parce qu'on ne peut pas avoir d'activité politique si on n'a pas d'activité intellectuelle, et on ne peut pas avoir d'activité intellectuelle si on n'a pas d'autonomie de pensée. Donc c'est d'abord ça qu'il faut faire. Et ça peut sembler dérisoire à beaucoup de gens qui se pensent dans l'action et qui pensent qu'il faut d'abord mettre en avant ce qu'ils appellent la conflictualité, le rapport de force, et ainsi de suite. Et c'est une idée, moi je l'ai longtemps partagée. Par exemple, je trouve, je ne sais pas si vous avez lu le gang de la Clamolette. Bon, c'est des saboteurs nord-américains, c'est une équipe sympathique qui détruit tout un tas de nuisances et d'infrastructures dans le sud des États-Unis. Enfin bon, c'est un roman culte, comme on dit. Hein. Mais en fait, autant j'ai le goût de l'action, autant je crains... Il me semble que chaque fois que c'est les militaires... Il me semble que chaque fois qu'on emploie des moyens militaires, ou violents, ou guerriers, ou l'action, chaque fois on donne dans le mouvement le pouvoir à ceux qui aiment ça, et qui se spécialisent là-dedans. Et le dernier exemple en date, c'est la Syrie. J'ai suivi attentivement ce qui se passait en Syrie. J'ai même lu un petit bouquin de l'édition de La Lenteur sur le sujet, dont je ne me souviens pas le titre maintenant. Et on voit bien comment les contestataires de la première heure, les étudiants dans les villes, qui protestaient de façon pacifique, qui entraînaient toute la population avec eux, ont été débordés, puis décimés, puis détruits par les groupes militaires, les groupes guerriers. Aussi bien les groupes djihadistes que les groupes laïcs, d'ailleurs. Hein. Mais évidemment, les groupes djihadistes ont fait des ravages, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu plusieurs fois dans l'histoire. C'est quelque chose que j'ai vu passer fugitivement dans ma jeunesse post-68arde. Dès qu'on laisse s'exprimer les militaires, ils prennent le pouvoir. Et donc, c'est pas ça qu'on veut. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas ça que je veux, quoi. Donc,
Très bien, ben on va s'acheminer vers la fin de cette émission, hein, donc sur microrebelle.fr. Peut-être pour aller plus loin, quelles ressources, le site de pièces et main-d'œuvre.
Oui, évidemment, on a un site, mais qui est plutôt une bibliothèque, parce qu'il fallait bien qu'on range quelque part tous nos textes. On incite quand même beaucoup les lecteurs à lire du papier et pas de l'écran, pas sur écran. Donc on a publié une douzaine de bouquins aux éditions L'Échappée, collection négative. On vient de publier sous notre propre label le Manifeste des chimpanzés du futur contre le transhumanisme, qu'on peut trouver en librairie, hein, aux éditions Services compris. Et puis tous nos textes maintenant sont disponibles en brochure papier qu'on peut nous commander par la poste. Et vraiment, vraiment, lisez sur papier.
Moi, je voudrais dire quelque chose encore. Enfin, bon,
vas-y.
On a beaucoup parlé de Grenoble et ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas parlé de Lille. Et en fait, on aurait pu tenir le même discours à propos de Lille. On aurait pu parler des transhumanistes à Lille. On aurait pu parler des nouvelles technologies, enfin des technologies de pointe à Lille. On aurait pu parler des high-tech à Lille et même dans la région. Et on a commencé en expliquant qu'on n'était pas un groupe, mais des individus. Nous, on ne cherche pas à recruter des gens. Hein. Personne n'espère adhérer à pièces et main-d'œuvre. Mais on voudrait plutôt se dupliquer et qu'il y ait partout des groupes d'enquêteurs et de chimpanzés du futur, et y compris à Lille, et qu'en partant de ce qui se passe à Lille et dans le bassin minier, en partant de ce qui se passe ici, qu'ils fassent le même travail d'enquête que ce qu'on a fait à Grenoble.
Et il faut signaler qu'il existe Hors-Sol quand même, le site Hors-Sol qui fait ce travail-là sur la métropole lilloise. Mais effectivement, il en faudrait plus. Il faudrait que se créent partout des petits groupes d'enquêteurs. Il n'y a pas besoin d'être très nombreux. Il suffit d'être motivé et curieux pour qu'émerge d'en bas du sol, justement, une pensée qui soit enracinée dans les faits, dans l'analyse des faits locaux. Et là, ça deviendrait intéressant.
Ça, c'est de l'action. Mmh. Ça, c'est...
Mmh. Alors, pour connaître Hors-Sol, donc, il y a le site hein, hors-sol.herbefol.org. La revue Hors-Sol hein, qui est... par exemple disponible au LAG, à le lieu autogéré du bassin minier à Liévin. Merci à tous les deux, merci pièce, merci main d'œuvre.
Merci.
À bientôt.
Ce micro-rebelle reportage se termine.
Retrouvez tous nos reportages sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr en podcast ou en téléchargement.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Salut à toutes et à tous et à bientôt pour un nouveau Micro-Rebelle reportage.